Allons-nous recueillir un instant dans la prière. Dieu notre Père, encore une fois, nous sommes ensemble, enveloppés par ton regard d'amour. Et nous savons que, du haut du ciel, les anges se penchent pour écouter aussi ce qui se passe dans le cœur de ces hommes, de ces femmes, pécheurs, pécheresses, qui ont enfin trouvé le salut en Jésus-Christ. Oh, nous savons que tout ce qui touche à ces âmes touche les anges, parce qu'ils sont les esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Et il y a ce soir des anges qui regardent encore les âmes qui, peut-être, dans ce lieu, n'ont pas encore trouvé, ne se sont pas laissés saisir. Et ces anges attendent pour que la joie éclate dans le ciel, pour des pécheurs qui enfin se repentent et saisissent la vie éternelle que le Père voudrait leur donner pour qu'ils soient dans la joie, dans une joie parfaite. Alors notre attente est en toi. Éperdument, nous regardons vers toi pour que tu agisses dans ce camp et que ton dessein bienveillant s'accomplisse par la toute-puissance de ton esprit, appliquant ta parole à nos âmes et à nos cœurs, et que ceux qui ont été sauvés par cette parole puissent aussi se réjouir en en voyant d'autres touchés par ta grâce, avant qu'il ne soit éternellement trop tard. Agis en puissance au milieu de nous, puisque tu es là, Seigneur Jésus. Amen. Mes amis, nous sommes déjà mardi soir, 11 juillet, et nous poursuivons notre étude. Vous serez mes témoins en ayant comme toile de fond ce livre des Actes des Apôtres. Et ce soir, nous arrivons au chapitre 20e, qui contient, comme vous le savez maintenant, 38 versets. Et je dirais que ce matin, nous avons vu ce que Dieu a opéré dans quelle ville? La ville d'Éphèse. Pendant les 3 années environ que Paul y passa. Et nous avons vu que, au début, dans cette ville, Paul avait rencontré 12 hommes qui avaient été disciples, au fond, de Jean-Baptiste. Et Paul les a amenés à la pleine lumière et à celui qui ne baptisait pas seulement en eau, mais qui baptisait du Saint-Esprit. Et Paul, après avoir éclairé ces personnes et leur avoir montré vraiment la voie du salut, s'est consacré à enseigner dans la synagogue des Juifs, comme il le faisait toujours, mais devant l'opposition de ces Juifs qui lui avaient pourtant demandé de revenir à Éphèse pour leur parler, devant leur opposition et devant leur calomnie contre les chrétiens, Paul a décidé de rompre avec la synagogue et il a réuni les disciples dans une école, celle de Tyrannus, où pendant 2 ans, il a enseigné quand? À la synagogue, il ne pouvait enseigner qu'une fois par semaine. Mais là, il pouvait enseigner tous les jours. Et il enseignait tous les jours dans cette école de Tyrannus, de sorte qu'il est dit que tous les habitants de la province, là, d'Asie, ont eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Et Dieu bénissait, Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On appliquait même, avons-nous lu, des linges sur la peau de Paul, et puis on les plaçait ensuite sur des malades. Et il est dit que ces malades étaient guéris, et que même des possédés étaient délivrés. Ce passage que nous avons lu ce matin nous a fait penser à ce qui se produisait aussi quand l'apôtre Pierre, à Jérusalem, passait, hein, et qu'on avait mis des malades sur son chemin. Qu'est-ce qu'il est dit? Que l'ombre de Pierre les guérissait. Hein. Eh bien là, des étoffes qu'on avait mis sur le corps de Paul et qu'on appliquait sur les malades, guérissait aussi. On voyait les malades guérir. Mais, comme nous le disions, ce n'était pas l'étoffe qui guérissait, c'était le Seigneur. C'était Dieu lui-même. Et alors, les gens étaient impressionnés par tout ce qui se passait. Il se passait des choses que l'on voyait et que l'on entendait, n'est-ce pas? Il y avait un témoignage. Et alors, là où c'est très dangereux, il y a eu des juifs, des religieux aussi. C'était sept fils du sacrificateur Sheva, des exorcistes, et qui ont pensé, bien, puisque Paul a ce pouvoir, pourquoi est-ce que nous n'emploierions pas le nom de Paul et le nom de Jésus pour faire la même chose? Et ils ont essayé, deux de ses frères ont essayé de chasser un esprit mauvais qui était dans un homme possédé, et ils lui ont dit « Au nom de Jésus que Paul prêche, hein, sors de cet homme ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Le démoniaque a répondu « Je sais qui est Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous ? » Et vous savez, quand un démon est dans une personne, il décuple ses forces. Et ce démoniaque leur a sauté dessus, sur ces deux hommes, il les a déshabillés et il leur a donné une raclée formidable. Hein. De sorte que ces pauvres types qui avaient voulu chasser le démon, qui avaient voulu s'essayer pour faire ce que Paul faisait, ils ont été, étant nus, on a honteux, hein, ils sont partis honteux et blessés. On n'essaye pas de jouer avec ces choses. C'est quelque chose de très grave. De sorte que nous devons comprendre que si on n'a pas été appelé à un ministère, on n'essaye pas d'exercer un ministère. Alors, plusieurs personnes, on l'a vu aussi ce matin, étaient tellement touchées par la parole, il y avait une telle puissance dans ce que Paul avait prêché, que les gens venaient confesser publiquement leurs péchés. Ils racontaient, au fond, dans quel état de misère ils étaient, et qu'ils renonçaient à toutes les pratiques mauvaises auxquelles ils s'étaient livrés. Oh, que Dieu veuille toucher des cœurs et des consciences pour que, peut-être, dans cette nuit, quelqu'un reconnaisse que ce que a été sa vie passée, n'était pas selon le Seigneur, et confesse ses fautes au Seigneur. Le Seigneur va lui pardonner, et vous savez, quand on est pardonné, quand notre conscience est libérée, quand notre conscience est en paix, c'est la joie qui entre dans les cœurs. Et nous avons vu que ça allait tellement loin que ces gens qui avaient eu des mauvais livres et qui lisaient de mauvaises lectures dans leur foyer, ont pris ces livres et les ont apportés devant l'apôtre Paul et dans la ville, et puis on en a fait un grand tas, et c'était des livres qui avaient une certaine valeur, hein, eh bien, on les a brûlés. Voilà ce que nous avons considéré ce matin. Je dis cela, pas parce que j'aime me répéter, mais il y a plusieurs personnes qui sont au travail le matin et qui ne peuvent pas participer à nos études. Alors, nous essayons aussi de leur rappeler ce qui nous a touchés dans ce chapitre 19e. Et nous avons vu ensuite que Paul se proposait de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine, vous avez la carte là-haut, et par l'Achaïe, pour aller jusqu'où? Quelle capitale est-ce qu'il voulait atteindre? Rome. Il a pensé pouvoir aller jusqu'à Rome. Mais à ce moment-là, quand il avait ce projet, il y a un certain homme qui s'appelait Démétrius à Éphèse, qui était un fabricant d'idoles, qui a provoqué un terrible soulèvement contre Paul. Avec d'autres orfèvres, il voyait que cette industrie qui était très prospère à Éphèse se trouvait être en danger, et alors il a exploité les sentiments religieux de païens pour opérer un trouble contre l'apôtre et l'évangile qui menaçait leur bien-être, parce qu'on voulait garder le bien-être des gens. Et Démétrius, qui croyait devoir prendre la défense du temple de cette grande Diane des Éphésiens, leur a fait tout un discours pour les convaincre, comme au fond un chef de syndicat, n'est-ce pas, qui veut convaincre ses troupes pour les amener à protester contre quelque chose. Et pendant 2 heures, dans cette ville, une foule immense s'est mise à hurler quoi? Grande est la Diane des Éphésiens. Et il est dit que beaucoup de gens, en les entendant hurler cela, grande est la Diane des Éphésiens, s'étaient joints à la populace sans même savoir de quoi il était question. C'est ce qui arrive toujours dans ces mouvements de masse. Il y a quelques personnes qui commencent un petit noyau et puis ils crient. Alors les gens arrivent, ils ne savent pas de quoi il est question, mais ils hurlent avec les loups, comme on dit quelquefois. Et c'était devenu quelque chose de très grave, c'était une véritable émeute, et Dieu a suscité le secrétaire de la ville, qui est un païen, qui a réussi par de sages paroles à calmer les esprits. Il a fait comprendre au peuple qu'il fallait qu'ils se dispersent, car on pourrait les accuser de sédition, c'est-à-dire d'émeute, de révolte contre l'autorité établie, qui pourrait y mettre fin par une terrible répression, subitement, hein, parce que les autorités laissent faire certaines choses pour bien manifester les agitateurs, et puis après, c'est la répression. Et ça m'a fait penser à ce qui s'est passé récemment en Chine, n'est-ce pas ? Pour vous montrer que tout ce que nous lisons dans la parole est toujours actuel et peut toujours nous enseigner. On a laissé cette place que je connais en Chine, à Beijing. Nous y sommes allés avec ma femme, puisque ma femme a vécu 19 ans en Chine. Eh bien, j'ai vu cette place, je pouvais me rendre compte de ce qui se passait. Et évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et j'avais ce sentiment, on les laisse jusqu'à ce que, tout à coup, ce soit la répression. Parce que on dira qu'ils ont provoqué une émeute. Alors, l'émeute qu'avait provoqué ce Démétrius nous montre que les gens d'Éphèse étaient plus soucieux de leur bien-être que de l'évangile. Et ce bien-être, il provenait donc du temple de Diane et de la vente des miniatures en argent et en or que l'on vendait comme souvenir aux touristes. Et cela, cet argent qu'on gagnait de cette façon-là, passait avant la vérité. Et vous savez que dans les églises, bien souvent aussi, on en est arrivé là. On vous vend des souvenirs. On a parlé de Lourdes, mais on pourrait parler d'autres villes où, justement, on fait tout un trafic avec certains souvenirs en argent ou en or ou en plâtre. Et puis, cela aide au bien-être
de la population, puis on prend la défense d'une déesse. Vous vous rendez compte, hein? Des hommes sur la terre qui prétendent que Diane est une déesse, est une divinité, et ils doivent la défendre. Ça vous fait penser à Élie sur le Carmel, quand les prophètes de Baal voulaient que Baal leur réponde et qui criaient « Ô Baal, réponds-nous, ô Baal, réponds-nous », il n'y eut ni voix, ni aucun signe de la présence de Baal. Alors Élie a commencé à se moquer d'eux. Il dit « Votre Dieu, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en voyage, n'est-ce pas ?» Et vous connaissez la fin de cette terrible histoire. Mais vous voyez, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau, il y a toujours les mêmes éléments. Et c'est de Diane, qu'est-ce qu'on disait dans le chapitre que nous avons lu ce matin, que son image, elle était tombée d'où ? Elle était tombée du ciel, hein ? Et puis, alors donc, on avait recueilli son image. Et on faisait croire cela à qui ? Au peuple. Et le peuple, on le manipule, il est toujours prêt à croire. Si vous aviez été de ce temps-là, est-ce que vous auriez cru que l'image de la déesse serait tombée du ciel ? Alors on en faisait un lieu de pèlerinage, comme aujourd'hui ça se passe encore, et il y a des gens qui s'en vont là. Et alors cela crée tout un trafic. On exploite la superstition et la crédulité des foules. Et ça, c'est un principe qui est depuis toujours. Alors, je me pose cette question, et qu'en est-il aujourd'hui ? Et j'aimerais que vous compreniez bien, que vous ayez un moment toute l'attention. Hein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tout en prétendant que nous sommes plus éclairés qu'autrefois, eh bien, nous constatons que le monde n'a pas changé. En 1989, on est comme au temps où Paul était à Éphèse. Le monde a simplement changé ses dieux, mais le monde n'a pas changé. Ce sont des dieux nouveaux, dit le Deutéronome, venus depuis peu. Et comment s'appellent-ils ces dieux nouveaux ? Qui occupent la place dans les cœurs. Vous les connaissez, ces dieux nouveaux ? Ce sont les idoles du stade. Ça, vous seriez capable de nous donner les noms de vos joueurs préférés qui sont au stade, ou des vedettes que vous aimez, du spectacle, du cinéma, de la chanson. Les chansonniers, vous les connaissez, hein ? Vous avez vos idoles parmi les chansonniers, ou les jeunes, puis aussi les plus âgés, souvent. Les sports. On n'a rien contre les sports. Mais si ça devient une idole, je n'ai rien contre la chanson, mais si cette chanson n'est pas occupe la place, et si j'ai mieux chanté ces choses-là, si souvent futiles, plutôt que la louange du Seigneur, je suis un idolâtre. Et je dirais qu'aujourd'hui, les foules, ils ont leurs vedettes, et ils adorent les vedettes. Les champions olympiques, ils suivent leurs idoles, qui leur sont proposées par qui ? Par le prince de ce monde. Et vous avez vu la déception aux Jeux Olympiques, hein ? Qu'est-ce qu'on a remarqué pour le Canada ? Ah, c'était la grande idole. Puis le lendemain, c'était la déconfiture. Ils étaient dégonflés. Et ils avaient honte d'être Canadiens. Ceux qui s'était glorifié, ce n'est un des nôtres, même s'il a la peau noire. C'est un des nôtres qui après, non, 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 non. Ben Johnson, hein, pour ne pas le nommer.
Puis quand vous vous dites que la plupart de ces jeux sont truqués, alors, c'est cela votre vie? C'est du vide que vous avez dans votre cœur. Et tout d'un coup, quand ça craque, eh bien, c'est le suicide. Comme Dieu aussi, c'est la mode aujourd'hui. Hein? La mode. Et qui est-ce qui fait la mode que vous aimez tant suivre si souvent, vous les jeunes? Elle est plus âgée aussi. Ce sont des homosexuels qui dessinent ces modes. On est soumis à toute espèce de gens qui n'ont rien à faire avec Dieu. On est des baptisés. On fréquente une église, même une église évangélique. Mais on est comme le monde. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a plus de témoignage. C'est pourquoi je voudrais que vous vous souveniez de cette parole. Vous serez mes témoins. Il n'y a plus de témoignage. C'est pourquoi je voudrais que vous vous souveniez de cette parole. Vous serez mes témoins. Et c'est le Seigneur qui vous appelle, qui vous dit, je voudrais que ce soit toi, ma fille, qui soit un témoin pour moi. Je voudrais que ce soit toi, mon fils, qui soit un témoin pour moi. Je cherche un homme, et peut-être qu'on peut dire aussi je cherche une femme, dont le cœur soit tout entier à moi. Et vous savez, si votre cœur était tout entier à lui, le Seigneur ferait des choses merveilleuses par vous. Il a besoin de vous. Et vous, n'avez-vous pas besoin de lui? Alors nous arrivons maintenant à ce chapitre 20. Hein? Cette manifestation hostile qui eut lieu à Éphèse, a conduit Paul à quitter la ville. Et pourtant, c'était une bénédiction d'avoir Paul dans cette ville. Mais quand on ne veut pas de nous, quand on repousse les envoyés du Seigneur, eh bien, ils vont plus loin. Paul quitte la ville, pour quelle raison? Parce qu'il se souvient d'une parole de Jésus qui a dit, si on ne vous repousse dans une ville, allez dans une autre. Et j'étais frappé quand Janine a parlé d'un texte que j'avais cité, hein, mais c'est pas ma parole que j'ai citée, hein, c'était ce que Jésus avait dit lui-même. Quand tu pries, entre dans ton cabinet, bien sûr j'ai dit cette parole, hein, mais c'était pas ma parole, c'était la parole de qui? De plus grand que moi, et moi je vais pas me mettre devant le plus grand que moi. Je ne suis que là pour citer cette parole, un poteau indicateur. Hein. Quand tu pries, entre dans ton cabinet, ferme les portes sur toi, et ton Père qui entend dans le secret, qui voit dans le secret, te récompensera, te répondra. Et c'est ça ma confiance éperdue, que si moi je ne vois pas, ou si moi je ne sais pas, je crois que cette parole va opérer. Et je veux laisser l'action de Dieu pénétrer les âmes et non pas essayer, moi, de gratter sur cette semence que j'ai jetée pour voir si elle germe, s'il y a un résultat, si après une mission, je peux partir encouragé. Non, les fins de mission chez moi, c'est plutôt dans les larmes. Je finis dans les larmes, la plupart de mes fins de mission et même de mes camps, parce que je me dis, si je n'étais pas venu, si je leur avais pas parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, leur péché demeure. Vous êtes plus responsable qu'avant. Vous avez entendu. Et Jésus, quand il voyait Jérusalem, il disait, que de fois j'ai voulu, comme une poule rassemble les poussins sous ses ailes, hein, j'ai voulu vous rassembler, et vous n'avez pas voulu. Et c'était tellement fort sa tristesse, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a pleuré. Jésus, à la fin de son ministère, il a pleuré sur l'endurcissement de la ville qui avait eu le bonheur d'être visitée par lui et qui l'avait refusé et qui allait le crucifier. Alors donc, vous voyez que quand on est au service du Seigneur,
Eh bien, on a la même vie qu'a eu le Seigneur, et c'est très frappant. Hein. La vie de l'apôtre Paul, et plus vous comprendrez et suivrez la vie de l'apôtre Paul, la vie de Paul ressemble à la vie du Seigneur. Et il finit, au fond, presque tout seul, à la fin de son existence. Alors nous lisons maintenant le chapitre 20. Lorsque le tumulte eut cessé, donc maintenant vous savez quel était ce tumulte, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, il prit congé d'eux. Il y a un moment où l'on doit partir. Hein, et il partit pour s'en aller en Macédoine, comme ça devait être émouvant. Hein. On s'était attaché à Paul, puis voilà, il doit partir. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Partout où il allait, il avait un service. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, cette Syrie que vous voyez là, hein, qui est là, il allait s'embarquer de là pour la Syrie, quand il a dû changer son itinéraire, et il est venu par là. Il était prêt de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Donc, on a essayé de l'assassiner. Et c'est tout à fait comme aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué qu'on parle tout le temps de la Syrie aujourd'hui? D'Israël, de la Syrie? Ces noms sont sur les feuilles des journaux. Eh bien, voilà, nous sommes en plein là, il y a des voitures piégées qui sautent, il y a des tentatives d'assassinat, il y a des enlèvements. Eh bien, Paul, quand il traversait ces contrées, il avait les mêmes dangers. Alors, il sait qu'on veut lui l'assassiner, alors il se décida de reprendre la route de la Macédoine. Il est revenu en arrière. Il avait pour l'accompagner, alors vous voyez les noms de ses compagnons, verset 4. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée. Ça veut dire que c'était un converti, un juif converti, qu'il avait trouvé à Bérée, un de ses nobles, qui avait examiné avec soin les Écritures et qui avait reconnu que l'enseignement de Paul était véritable et qu'il était converti. Il était le fils de Pyrrhus. Il y avait Aristarque, et second de Thessalonique. Qu'est-ce qui avait annoncé l'évangile à Thessalonique? C'était Paul, hein. Et c'était deux de ces hommes qui étaient devenus imitateurs de Dieu, modèles pour les fidèles et témoins auprès de tous les hommes et qui deviennent les compagnons de l'apôtre Paul. Et un autre qui s'appelait Gaius de Derbe, la ville qui est à côté de celle où, de l'Istre, où Paul avait été lapidé. Il y avait Timothée, dont on a déjà parlé, qui était un enfant spirituel de Paul, qui était de Lystre, ainsi que Tychique et Trophime, qui étaient originaires d'Asie. Nous les retrouverons. Combien d'hommes qui étaient avec lui? 7. Hein? Il y avait 7 personnes qui accompagnaient l'apôtre Paul. Mais celui qui a écrit cela, est-ce qu'il n'était pas un compagnon de Paul aussi? Luc, hein? Mais il ne dit pas « j'étais là hein? », moi aussi, non. Ceci, verset 5, et c'est pour ça que je dis que Luc est très modeste, hein? Il était le compagnon de Paul, il était avec Paul, le médecin bien-aimé, eh bien, il ne se nomme pas. Mais au verset 5, ceux-ci prirent les devants, donc ces 7, et nous attendirent à Troas. Pour nous, alors voilà, on voit bien que Luc était là, hein, c'est simplement, il dit « nous ». Pour nous, donc il était là, Luc, pour nous, Paul et lui, après les jours des pains sans levain, c'est-à-dire après la Pâque, nous nous embarquâmes à Philippe. Donc il était retourné dans cette ville de Philippe. Qui est-ce qui s'était converti à Philippe? Lydie, et qui? Le géolier, n'est-ce pas? Ils sont retournés à Philippe, donc ils ont revu ses chers amis, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, et nous passâmes 7 jours. Alors, ils sont donc à 3, que vous voyez ici sur la carte. Hein. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Le premier jour de la semaine, c'est quand? C'est un dimanche. Alors, on apprend comment on célébrait le dimanche. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Qu'est-ce qu'on faisait le dimanche? Quand on se réunissait, on rompait le pain. On célébrait la Sainte Cène, se souvenant que Jésus avait dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais dans l'église primitive, à Jérusalem, tout au début, quand est-ce qu'on célébrait la Cène? Tous les jours, tous les jours. Et vous savez, c'est quelque chose de merveilleux, quand on peut encore arriver à cela, ou en tout cas au moins une fois par semaine, tous les dimanches, parce que on ne peut pas communier quand on est en désaccord les uns avec les autres. De sorte que nos différends, grâce à la Cène, ne devraient pas durer plus d'une semaine. Ça ne devrait pas durer plus d'un jour, si nous communions tous les jours. Hein, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, parce qu'on ne veut pas communier en étant en désaccord avec un frère. Alors, si on communie tous les dimanches, eh bien, ça nous oblige d'être en accord, d'être en règle avec nos frères et de nous pardonner les uns les autres. Mais que font les chrétiens bien souvent? Quand ils ne sont pas en règle pour le dimanche, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne viennent pas au culte, tout simplement. Ils ne sont pas en règle avec le Seigneur ou avec un frère, ils ne viennent pas au culte. Et alors, cela crée des fossés. Tandis que si le Seigneur est dans nos cœurs, on entend sa voix qui nous dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Et alors, on va trouver notre frère. Ce qui compte, ce n'est pas que moi j'ai raison sur mon frère, c'est que le Seigneur ait raison sur nous. Alors, au lieu de dire « C'est lui qui doit faire le premier pas », c'est faux. C'est peut-être moi qui dois faire le premier pas et aller le trouver pour lui dire « Écoute, ça ne peut pas continuer ainsi. » Et je ne t'en veux pas, mais je voudrais qu'on puisse communier à la table du Seigneur, dans l'harmonie, pour faire ce plaisir au Seigneur. Alors, vous voyez qu'ils avaient compris cela. Le dimanche, ils étaient réunis pour rompre le pain. Et Paul devait partir le lendemain. Alors, vous voyez, c'était leur dernière soirée. Alors, ils s'entretenaient avec les disciples. Et c'est là, nous l'avons raconté tout à l'heure à nos petits-enfants, là, il prolongea son discours jusqu'à quand? Minuit. Cela ne dépassera pas 10 heures, hein, ne vous en faites pas. On va tâcher d'arrêter notre lecture avant que minuit sonne. Hein. Est-ce que vous êtes tous bien installés? On n'est pas au troisième étage. Hein. On n'est pas au troisième étage. Mais vous voyez, comme j'ai pensé après coup, c'était pas prémédité. Je me suis dit, si on va à la clairière des Indiens, il fera peut-être humide. Puis après, quand j'ai pensé à l'histoire que je devais raconter, je me suis dit, à la clairière des Indiens, je n'aurais pas été très à l'aise. Tandis qu'en étant sur la balustrade, là, il y avait le vide derrière moi. Hein. Alors, ils pouvaient très bien, les enfants, comprendre ce qui était arrivé à Eutyche, qui s'était assis près de la fenêtre et il s'est endormi. Alors moi, si je m'étais endormi sur la balustrade, je serais tombé. Mais les enfants pouvaient se rendre compte de ce que c'était qu'une chute. Hein. Alors ça valait mieux d'être sur la galerie que d'être ce soir à la promenade des Indiens. Donc vous voyez, dans le détail, le Seigneur nous conduit et nous dirige. Mais nous sommes toujours dépassés. Hein. Il fait mieux et plus que ce que nous pouvons espérer et penser. Je voudrais que vous en soyez convaincus que nous avons un Dieu dans le détail hein, et qui s'occupe de nous dans les petites choses. Et c'était tellement beau de voir comme les enfants ont suivi là. Et puis, quand on s'est penché sur le petit gars, hein, il a accepté, mais il y a une petite fille qui a été jalouse. Elle a voulu faire la morte, elle aussi. Et elle est venue aussi pour qu'on lui fasse la même chose. Hein. Paul, quand Eutyche est tombé de la fenêtre, au lieu de se dire « Oh, j'aurais dû m'arrêter avant, hein. Je n'ai pas excusé. Non, ce garçon n'avait pas à se mettre au bord de la fenêtre. Et puis, il avait qu'à peut-être écouter, mais comme il a été dit, là, il y avait beaucoup de lampes, alors il faisait très chaud. Hein. Et puis, évidemment, le discours de Paul était long. Alors, le gars, peut-être qu'il avait beaucoup travaillé, je ne sais pas s'il avait fait les toilettes quelque part, pendant la journée, ou récuré les planchers, et écouter encore la longue réunion de Paul, ben, c'était pénible peut-être. Hein. Eh bien, vous voyez, verset 8, « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés. » On pense qu'une chambre haute, comme c'était celle de Jérusalem, pouvait contenir 120 personnes. Mais quand vous êtes 120 dans une chambre assez restreinte, eh bien, d'abord, chaque corps est une petite centrale thermique, hein, alors ça chauffe, et puis encore toutes les lampes, des lampes à huile. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, il s'est endormi. Pourtant, Paul, hein, il était intéressant. Mais voilà, quand on est fatigué, ben, on s'endort. Et il s'est endormi profondément, comme Noé. Il y en a qui s'endorment. Pendant le long discours de Paul, et entraîné par le sommeil, qu'est-ce qui est arrivé? Personne ne l'a poussé. Mais le sommeil l'a entraîné, et puis il est tombé du troisième étage en bas, et il fut relevé, bon, ben dis donc, hein, pour une réunion d'édification, on est un peu démoli, hein. Et on se dit, mais quand même, Paul, t'aurais pu arrêter avant. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui. C'est tellement beau, ça. Il reste dans le calme et se penche sur lui. Et il le prit dans ses bras. C'est un assassin, toi. Il le prit dans ses bras. En disant, ne vous troublez pas, son âme est en lui. Dans quelques autres cas, l'âme était déjà dehors, hein, mais l'âme était encore en lui, mais il était constaté mort. Quand il fut remonté, qu'est-ce qu'il dit? Bien maintenant, alors on va vite aller à la maison. Hein? Non, je continue. Ils ont rompu le pain, ils n'avaient pas encore rompu le pain. C'est-à-dire que vous voyez quand les gens disent, est-ce qu'on doit faire le message avant la scène ou après la scène? Bien, ça dépend. Ici, il avait été fait avant, puis il y en aura un après. Il ne faut pas se bagarrer pour ces questions-là. Il faut voir ce qui convient le mieux. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Vous savez ce que c'est que la fraction du pain, on sait dimanche. Et il parla longtemps encore, jusqu'à quand? Jusqu'au jour, jusqu'à l'aurore. Hein? Après quoi, il partit. Mais le jeune homme fut ramené vivant et ce fut un sujet d'une grande consolation. S'il n'y avait pas eu cette chute, on n'aurait pas eu cette consolation. Tout le monde était consolé. Mais ça nous dit quelque chose, spirituellement. Voyez-vous, aujourd'hui dans le monde, les enseignements apostoliques de l'apôtre Paul, on ne les connaît plus. On ne les connaît plus, on les a entendus, mais on s'est endormis. On s'est tous endormis, nous les chrétiens. On ne réagit plus aux exhortations apostoliques. On sait ce que les apôtres ont enseigné, mais dans l'Église chrétienne, on s'est éloigné de l'enseignement apostolique. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une chute, spirituellement. Il y a eu chute dans l'Église, et puis c'est la mort dans les Églises. C'est la mort spirituelle. Alors il faut vraiment que le Seigneur agisse, se penche sur nous pour nous ramener à la vie. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Et puis nous pourrons aller jusqu'au matin de sa venue. Car le matin vient, il vient bientôt. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas, je ne fais que vous signalez des pistes de réflexion à vous qui dites, Oh, dans mon église, on n'est pas nourri. Bien, nourrissez-vous vous-même. Et puis, apportez ce que vous avez trouvé à d'autres. Hein. Édifiez-vous les uns les autres, parce que le Seigneur vous aura montré. Pour nous, verset 13, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour Assos, et où nous étions convenus de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Ben, c'est quelque chose, hein. Ces hommes qui faisaient la route à pied, ils en avaient pour des jours et des jours, et des fatigues. Lorsque il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. Alors là, c'est un trajet en bateau. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Milet, c'est assez près d'Éphèse. Et on se dira, mais pourquoi est-ce que Paul n'est pas allé à Éphèse? Eh bien, vous le comprenez, verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse, sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre du temps. Parce qu'il avait été 3 ans à Éphèse, il y avait tellement de monde qu'il n'en serait pas ressorti. Tout le monde aurait voulu l'avoir. Et il a préféré s'arrêter près d'Éphèse et de dire aux anciens d'Éphèse de venir le voir, car lui, il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Entre Pâques et Pentecôte, combien y a-t-il de jours? 40, hein? Et puis, avec l'Ascension, entre l'Ascension et Pentecôte, il y en a 50. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Il a à cœur de leur parler encore une fois. Lorsqu'ils furent arrivés, les anciens, c'est ceux qui sont les responsables de ces églises qui avaient été établies par Paul, et Paul avait établi des anciens, dont les caractères des anciens, vous les trouvez dans l'épître, la première épître de Paul à Timothée. Et voilà ce que Paul a dit à ses anciens. Vous le voyez maintenant, là, assis, et puis tous les anciens de ces églises d'Éphèse, parce qu'il y a plusieurs églises à Éphèse, mais qui sont en communion les unes avec les autres. Et il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Vous savez qu'on dit des fois d'un pasteur, au début, hein, il balaye bien, hein. Balai neuf, balaye bien, c'est formidable, on est content de son pasteur. Puis après, on dit, oh, vous savez, hein, il nous déçoit, on avait attendu autre chose. Bien, pour Paul, c'était pas cela. Il était tous les jours le même. Il n'a pas varié, et nous ne devons pas varier. Pourquoi? Parce que nous sommes les disciples de celui qui s'appelle le même. Hein? Je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui, je suis le même éternellement. On doit pouvoir dire, vous n'avez pas changé. Bien sûr, les cheveux peuvent blanchir, mais le cœur reste le même. Vous savez de quelle manière je me suis conduit depuis le premier jour où je suis entré en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité. Alors, restez petits à nos propres yeux. Restez toujours humbles. Oh, mes amis, ne vous glorifiez pas. Jésus, il était comment? Doux et humble de cœur. Et ce que je dis souvent, ne détruisez jamais le caractère du Christ en vous. Hein. Christ, s'il est en vous, il fait de vous un être humble, n'est-ce pas? Un être humble. Et puis, il dit, j'ai servi avec larmes. Quand on voit des âmes qui résistent à la parole, qui se privent du bonheur, bien, on ne se réjouit pas, on est triste. Eh bien, il a pleuré, lui. Au milieu de beaucoup d'épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, il était tout le temps attaqué. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement, c'est-à-dire dans les salles et dans les maisons. Paul faisait des visites particulières. Il allait aussi dans les maisons, parce que dans les maisons, on a un contact plus personnel, comprenez-vous? Eh bien, c'était ça son travail. annonçant aux Juifs et aux Grecs qu'il ne faisait pas de différence entre les Juifs religieux et les Grecs païens. Et qu'est-ce qu'il leur annonçait? Quel est le message? La repentance envers Dieu. Il faut d'abord que nous comprenions que nous devons nous repentir devant Dieu. Parce que Dieu ne fait grâce qu'aux humbles, qu'à ceux qui se reconnaissent pécheurs. Si tu ne te reconnais pas pécheur et coupable, eh bien, le Seigneur ne peut pas travailler en toi. Il faut commencer par la repentance. Annoncer la repentance, c'est ce que les prophètes ont fait pour Israël. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et un homme qui veut être béni, qu'il soit jeune ou plus âgé, ou une femme, il doit commencer par se tenir devant Dieu et dire devant Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Et le Seigneur nous montre ce que nous sommes. On doit se voir, non pas à la lumière des autres, mais dans la lumière du Seigneur. Comme je l'ai dit quelquefois, n'est-ce pas? Si je me regarde moi, je me désole. Si je regarde les autres, je me console. Parce que je me dis, ils sont à peu près comme moi. Mais si je me vois devant le Seigneur, je tombe, je m'écroule. Alors, c'est dans la lumière du Seigneur que je dois me voir, que j'apprends à me connaître. Et j'entends notre Père des cieux qui dit, il n'y a qu'une vie qui peut entrer dans le ciel, c'est la vie de mon Fils. De sorte que si tu n'as pas la vie, tu n'entreras pas dans le ciel. Ne t'imagine pas que tu seras pris dans le ciel. Si tu n'as pas reçu la vie, tu ne peux pas entrer au ciel. Et la vie, elle est en qui? La vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Ne vous faites pas d'illusions. Il faut l'avoir reçu. Alors, Paul dit, je vous ai annoncé la repentance, et puis la foi au Seigneur Jésus. La foi au Seigneur Jésus, une fois qu'il m'a montré que j'étais pécheur, incurable, il me dit, oui, mais il y a un espoir. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. J'ai à passer par Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et si on va à lui, eh bien, on n'est pas déçu. Et alors, Paul continue, et maintenant, voici, me voici lié par l'Esprit. C'est l'Esprit qu'il possède, c'est l'Esprit qu'il conduit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, selon la chair? Ne pas y aller. Fuir de l'autre côté. Bien non, il va quand même. Et c'est ce verset 24 que j'aimerais que vous sachiez par cœur. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Donc un chrétien, il doit être joyeux, même au sein de la tribulation. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, vous voyez, le ministère, on ne le reçoit pas d'une église, d'une communauté, on le reçoit du Seigneur Jésus, par un appel. Et ce ministère, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors il ne fait aucun cas de sa vie. Pour lui, ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Et maintenant, voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dernière fois qu'on se rencontre. Et il s'était attaché à Paul. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé. Vous voyez, nous ne sommes que des hommes qui passent. Nous ne faisons que passer en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Vous savez, c'est toujours ça qui me préoccupe. Est-ce que j'ai annoncé à ces âmes tout le conseil de Dieu? Est-ce que je suis net du sang de tous, sans en rien cacher, Parce que est-ce que j'ai donné tout ce que tu voulais que je leur donne? Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Il parle aux anciens, à ceux qui conduisent, aux conducteurs, et à tout le troupeau sur lequel, qu'est-ce qui les a établis? Le Saint-Esprit, c'est grave. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Christ. Paître l'Église du Christ, c'est être des bergers. mais des bergers qui suivent le bon berger. Le bon berger qui a cherché la brebis perdue et qui l'a sauvée. Il sauve la brebis perdue, il ramène celle qui est égarée, il pense celle qui est blessée et la malade, il la tue? Non, il la soigne et il la ramène au bercail. Voilà le Seigneur. Alors verset 29, l'apôtre Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, quand Paul ne sera plus là, hein, quand il ne sera plus là avec son énergie spirituelle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y en a qui voudront le remplacer. Et ce seront des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Paul avait servi d'une façon désintéressée. Il y en a qui voudront prendre la suite, mais pas dans le même esprit. Il célébrera du milieu de vous, hein, du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. C'est ce que vous trouvez constamment aujourd'hui. Des gens qui forment des sectes, hein, qui veulent avoir un nom, donner leur nom à tel groupe, qui veulent toujours augmenter leur groupe et qui ne travaillent pas vraiment pour le Seigneur. Verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et c'est beau, sa conclusion. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Il est comme Moïse qui leur dit, je ne vous ai pas même demandé un âne. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui demandent des cadillacs. Parce qu'il y a ce courant, quand on est serviteur de Dieu, on doit avoir une belle voiture. On est ministre du Seigneur. Alors il y a tout ce courant-là, alors on vous demande de l'argent, n'est-ce pas, pour honorer un serviteur de Dieu. Paul, il allait à pied. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi, comme le Seigneur. Hein. Ils avaient une bourse, on mettait de l'argent dans cette bourse, mais c'était pour le donner, pour en faire bénéficier d'autres. Et vous savez, c'est une grande joie de pouvoir donner. C'est pourquoi on ne maîtrise pas l'argent. Et si le Seigneur nous en donne, c'est pour le faire passer ailleurs, c'est pas pour capitaliser. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi, vous voyez, je vous ai montré, donc il est témoin, il est un exemple. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit de lui-même. Dans quel évangile est-ce qu'il a dit ça? Trouvez-moi ce verset dans l'évangile. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous connaissez ce verset? Non. Nulle part. Nulle part. Pour quelle raison? Parce qu'il est dit que si on avait recueilli toutes les paroles du Seigneur, le monde entier serait trop petit pour contenir tous les livres qu'on aurait écrits. Alors, vous voyez, dans les actes, quand vous lisez les actes, vous pouvez trouver une parole du Seigneur qui n'a pas été rappelée dans les évangiles. Oh, c'est un petit piège à loup, là. Hein. Mais, voilà. C'est comme, vous entendez souvent, « Aide-toi, le ciel t'aidera. » Hein? Vous l'entendez, ça? Alors, quelqu'un m'a dit, « Vous ne pourriez pas m'aider à trouver cela dans la Bible? » J'ai dit, cherche toi-même. Ben, il cherchera longtemps, elle n'y est pas. Moi, j'ai quelquefois pensé que c'était Sarah qui avait inventé ça. Quand elle a vu que le vieil Abraham, ça n'allait plus pour avoir des enfants, puis elle s'était dépassée. Alors, elle a pris la petite servante, puis elle l'a donnée à Abraham, en disant, ben, comme ça, il faut aider le Seigneur. Pour réaliser sa promesse. Aide-toi, le ciel t'aidera. on croit la promesse, mais ça sera par quelqu'un d'autre. Alors, non, attention, hein, faut pas, c'est pas dans l'Écriture, ce « aide-toi, le ciel t'aidera ». Comme ici, et ce n'est pas dans les Évangiles, mais c'est pourtant alors une parole du Christ. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je me souviens, alors, en Israël, il y a quelques années, j'avais reçu un don en Suisse, alors que j'allais en Israël. Puis la personne qui m'avait dit, je te donne cela, tu en fais ce que tu veux, tu gardes ça pour toi, ou bien tu en fais ce que tu veux. Et j'ai trouvé tellement besoin en Israël, et pouvoir leur apporter ce que j'avais reçu, c'était une joie. Hein, pouvoir donner, avoir la possibilité de donner au nom du Seigneur. Hein. Voilà, tu as besoin de cela. Je me souviens au bord du lac de Tibériade, c'était une veuve avec ses enfants. Elle devait être expulsée et puis on me l'a signalé. Je suis arrivé là juste au bon moment. Avec une sage-femme qui m'accompagnait, qui m'avait pris dans son auto. Et on a eu un bonheur immense. Et figurez-vous que cette année, je me trouvais en Suisse. J'ai reçu un téléphone de Jérusalem et cette femme voulait me revoir. Et je l'ai rencontrée à Nice. Et on a pu encore s'occuper d'elle et de sa famille. Le Seigneur fait des choses merveilleuses et on a de la joie à donner quand on en a la possibilité. Alors quelquefois, le Seigneur donne pour qu'on puisse donner. Hein. Après avoir ainsi parlé, voyez le tableau, Paul s'est mis à genoux. Est-ce que ça vous arrive encore? Quelquefois de vous mettre à genoux? Il s'est mis à genoux. Puis il pria avec eux tous, voyez son humilité. Et qu'est-ce qui s'est produit? Verset 37. Ils fondirent tous en larmes. Et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient. Et le terme grec, c'était un baiser de tendresse. Il y avait toute leur tendresse dans ce baiser. C'était le baiser de quelqu'un, mais qui le donnait avec tendresse. Je ne sais pas, nous avons bout des lèvres. Hein. Non, on l'a embrassé. On lui a fait sentir qu'on l'aimait. Et vous savez, ça fait du bien quelquefois. Hein. Pauvre Paul, qui était si souvent maltraité. Hein. Et qu'on persécutait. Parce qu'un vrai chrétien, ou bien on l'aime, ou bien on le hait. Mais pas. Il n'y a pas de milieu. Hein. C'est un grand amour, peut-être, ou bien alors, c'est la haine qui vient de la jalousie et de tout ce que vous voulez. Eh bien, nous sommes heureux de voir que Paul a quand même été aimé, malgré tout le mal qu'on disait de lui. Et ils étaient affligés de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'ont accompagné jusqu'au navire. Vous voyez cette affection? Ils l'ont accompagné jusqu'au navire. Ils ne vont pas le laisser partir et ils veulent encore lui faire signe quand le navire s'en ira. Voilà, j'ai un peu dépassé les 10 heures. Excusez-moi mes frères et mes sœurs. Et puis, préparez-vous pour demain, pour qu'on puisse continuer. Alors, nous avons demain matin le chapitre 21 et 22. C'est 70 versets. Est-ce qu'il y a une question? Et de ce que tu nous as fait entendre ce soir et de ce que tu nous as fait comprendre, comment tu opères dans les cœurs, dans le silence, au travers de toutes sortes de circonstances, tu amènes les âmes à te rencontrer, à te connaître et à être pleinement satisfaites de ton âme. Nous te demandons que ce soit la part de tous. Nous continuons d'intercéder pour qu'il y ait dans cette fin de semaine une double mesure de ton esprit, que tu nous soutiennes les uns les autres dans toutes les tâches qui sont les nôtres, que tu coordonnes tout et que nous puissions voir encore les petits et les grands s'épanouir au soleil de ta grâce. Donne-nous la nuit de repos dont nous avons besoin et renouvelle nos forces pour que demain à l'aurore nous puissions chanter tes louanges et ta gloire. Amen.